Bonjour, nous sommes partis en vacances, mais pour vous accompagner, nous vous avons concocté des rediffusions. Bonne émission.
Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Combien vous me recevez? Affirmative, on va prendre maintenant patience pour que je puisse vous épeler les coordonnées. Tango Sierra de Tango Sierra 5. Direction nord-est, altitude 2359 mètres, over. Comme je vous ai dit, nous avons les matériels que nous utilisons, les GPS, et nous avons notre salle d'observation au niveau du quartier général. Et là, quand nous sommes avec une famille de gorilles, chaque guide, normalement, nous devons épeler le secteur là où le gorille est localisé. Et puis aussi, nous devons donner notre position, c'est-à-dire les coordonnées géographiques, la longitude et la latitude. Et là, ça facilite aussi nos collègues qui travaillent à la salle d'observation de savoir beaucoup plus comment nous sommes en train d'évoluer sur Terre. C'est ce que j'étais en train de faire tout de suite là. Merci.
Bonjour, aujourd'hui pour changer d'air, C'est pas du vent vous emmène en République démocratique du Congo à la découverte du parc national de Kahuzi-Biega, à l'ouest du lac Kivu, près de Bukavu. C'est une vaste étendue de forêt tropicale primaire. Le parc national de Kahuzi-Biega, créé en 1970, abrite l'une des dernières populations de gorilles des plaines de l'Est, appelées aussi les gorilles de Grower. Sa biodiversité exceptionnelle a permis à ce site d'intégrer la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Mais les guerres du Congo, l'instabilité politique des provinces du Nord et du Sud Kivu, l'exploitation minière artisanale et le braconnage ont mis ce parc et sa biodiversité en danger. En 1997, il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril, mais malgré cela, la population des gorilles de Grower a considérablement diminué. Il n'en resterait aujourd'hui qu'environ 250. Et un autre grand problème n'a toujours pas été réglé, celui des populations autochtones pygmées qui vivaient dans la forêt avant d'en être chassées lors de la création du parc. 50 ans plus tard, ils n'ont toujours pas de terre et l'interdiction de pénétrer dans le parc les prive de leurs rites, de leur pharmacopée, de la chasse, bref de leur culture, ce qui exacerbe les tensions avec les éco-gardes du parc. Alors comment concilier la préservation d'une espèce menacée, les gorilles de Grower, et la sauvegarde de la culture pygmée intimement liée à la forêt. C'est l'objectif que s'est fixé une toute nouvelle radio installée dans le parc de Kahuzi-Biega, son nom Gorilla FM. C'est un reportage d'Igor Strauss, réalisé par François Porcheron.
Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui nous emmenez dans la forêt?
Oui, moi c'est Papa Lambert, je suis le chef de guide et je suis le responsable chargé des activités touristiques sur terrain et surtout aussi pour le suivi et localisation de toutes les familles de gorilles que nous avons au parc national de Kahuzi-Biega.
D'accord. Donc là on part en voiture, en 4x4?
Oui, à partir d'ici on va déployer avec le 4x4 à peu près à une vingtaine de minutes et on va s'arrêter à un mot qu'on appelle le mot Bugulumiza. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à faire la forêt.
D'accord. Bon, on monte en voiture?
Oui, on monte dans la voiture. Merci. Ok. Tout de suite là, on va déployer et puis vous allez découvrir le paradis du parc national de Kahuzi-Biega, le Kitoko Dizo. Et c'est tout de suite là qu'on va visiter une de nos familles, une famille très bien habituée, c'est la famille Bonane. Oui, brave November, Tango Sierra, Tango 5 à Digne.
Ok, je dis juste à vous.
Bien noté, comme d'habitude, envoyez une unité si les lieux que vous connaissez. Je suis à route.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour.
Attention avec les fusils, hein. Pas sur nous.
Pas mal. Hein.
Moi, c'est Papa Lambert, comme je vous ai dit. Je suis le chargé des activités touristiques sur terrain. Bien, je suis très content et très heureux de vous voir. Vraiment, c'est un parc qui héberge une biodiversité énorme sur le plan de la faune et le plan de la flore. Là, tout de suite, là, je peux vous dire qu'il y a trois secteurs. Là, on visite les gorilles de montagne, comme au Rwanda, en Ouganda, ici au parc national de Virunga, en RD Congo. Mais la sous-espèce... Les kitoko du parc national de Kahuzi-Biéré que nous allons palper tout de suite, les paradis, c'est seulement ici au parc national de Kahuzi-Biéré que cette sous-espèce est bien suivie. Et c'est seulement ici au Kahuzi-Biéré où il est habitué. Et c'est seulement ici au Kahuzi-Biéré où il est visité. Et alors, personnellement, moi-même que je parle, ça fait environ 27 ans que je fais le suivi des gorilles au parc national de Kahuzi-Biéré. Je n'ai pas honte de vous dire que c'est mieux que je vous raconte chez moi en train de déranger ma famille. Mais si je vous raconte à l'intérieur de la forêt en train de déranger cette sous-espèce de gorille, là vous avez de sérieux problèmes avec moi. Merci pour ce fait, mais tout de suite là on va visiter la famille de Bonané. Bonané c'est le premier fils de Chimanuka. Il s'appelle Bonané juste puisqu'il est né le 1er janvier 2003. Il y a à peine 2 ans que Bonané a quitté sa famille dès qu'il a atteint l'âge de 12 ans. Et Bonané, il est parti, mais un jour il s'est dit pourquoi je ne peux pas venir saluer mon père. C'est quelle salutation, c'est-à-dire, il est venu juste tester sa force et la force de son père. Mais imaginez-vous, c'était quel type de salutation. Il a fait 3 jours de bagarre avec son père. Et du coup là, il a arraché 3 femelles. Dans la famille de son père, ce sont les mêmes femelles que nous allons visiter dans la famille de son fils. Communément, Maman Mukono, qui actuellement c'est la mère de Monsieur Wilungula, et il y a Maman Siri, c'est la mère de Monsieur Descriver, et il y a Siri, c'est la maman de Moja. Ce sont les 3 femelles qu'il a arrachées dans la famille de son père. Et il avait dit à son père, le secteur, ne vous en partiez plus, maintenant c'est mon secteur. Et son père avait dit, merci beaucoup mon fils, je vous laisse le secteur. Et son papa est parti chercher un autre secteur. C'est là où il habite actuellement. Et son fils, maintenant, il domine le secteur de son père. Alors, ça, c'est juste vous montrer le comportement des graueurs de Kahuzi-Biéré par rapport aux gorilles de montagne. Que les gorilles de montagne, normalement, quand les jeunes mâles ont tel âge adulte, il peut rester dans la famille. Il va dire à papa, je suis maintenant boss, je vais vous aider pour la sécurité de la famille. Et c'est à cet effet qui est dans une famille de montagne, au Rwanda, en Ouganda, au parc national de Virunga. Vous pouvez rencontrer dans une famille de gorilles, il y a 3 mâles et 1 mâle alpha. Et ils ne se disputent pas et ils sont à l'aise. Mais au Kahuzi-Biéré, vraiment toutes les familles de gorilles sont dominées par un seul mâle alpha. Les mâles à l'âge adulte, où il quitte la famille, c'est maintenant la force qu'il va lui donner. S'il n'a pas la force, il peut rester solitaire dans sa vie et dans la nature. Juste ce sont des distinctifs là où vous pouvez trouver par rapport aux gorilles de montagne qu'on appelle les Beringuets par rapport aux gorilles des plaines orientales ici au Kahuzi-Biéré qu'on appelle des Graouers. Vous allez voir dès qu'on sera face à face aux gorilles et quand les bébés nous approchent ou les mâles regardent comme ça, ils disent moi aussi j'ai fait. Juste c'est pour montrer à M. Bonané que nous sommes toujours là. Et lui-même, il sera très content. Il va dire aussi, je suis très content avec les visiteurs. Bien, merci. Le reste, on va tout droit et lentement dans la forêt. Et au fur et à mesure, vous allez palper les paradis du parc national de Kahuzi-Biéré. Je vous remercie. les trous qu'il y a ici, avant, il y avait des pygmées qui vivaient à l'intérieur du parc, qui vivaient de la chasse et de la cueillette. Attention! Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Alors ça, ce sont des pièces traditionnelles que les pygmées utilisaient avant. Ils creusent un trou là, et à l'intérieur des trous là, on met des lances. Et quand on met des lances, on couvre le trou. Et l'animal en train de marcher, du coup là, il tombe dans le trou là, il est piqué, puis il est mort. Ce sont des pièces traditionnelles que les pygmées utilisaient quand ils habitaient dans la forêt. Mais aussi quand ils ont vu l'importance du parc, puisque lors de la découverte de cette sous-espèce de gorille au Kahuzi-Biega avec M. Adrien Descliver et Mushenzi, Adrien Descliver il travaille beaucoup plus avec les pygmées. À l'époque, il utilisait des pygmées comme des boussoles naturelles. Des boussoles naturelles, puisqu'ils habitent dans la forêt, ils connaissent toutes les collines et les montagnes qu'on sort. Mais avec le début de l'écotourisme au Kahuzi-Biega en 1973, les pygmées, ils ont vite vu l'importance du parc, puisqu'il y avait l'afflux des touristes là. Et à l'époque, ils ont dit, ah, c'est ça l'importance des graveurs de Kahuzi-Biega. Alors nous, désormais, on va laisser les gorilles tranquilles, avec toute la liberté dans la forêt, et nous les considérons maintenant comme un animal sacré. Et à partir de ça, les gorilles, ils ont pris l'ampleur de rester stables et calmes dans la forêt. Il n'y a que juste pendant les trois guerres successivement que nous venons de connaître ici en RD Congo, là où il y a eu massacre des grands mammifères et des grands singes. Personnellement, ça me fait mal au cœur quand je vois comment les grands mammifères et les grands singes ont été décimés pendant la guerre. C'est l'écocide. Hein? Nous avons des exemples. Là au bureau, nous avons des crânes des éléphants, les crânes des gorilles, les crânes des chimpanzés et d'autres faunes. Mais du coup, là, après la guerre, on s'est dit faire beaucoup de patrouilles dans la forêt, dans le secteur de la haute altitude. Et d'y aider actuellement, nous avons 14 familles de gorilles.
Là, on avance péniblement, là. Donc là, on descend. On a quitté le sentier. Et là, on est vraiment en pleine forêt. On progresse difficilement, c'est en descente, ça glisse. Heureusement, on était munis de bottes. On a commencé déjà à entendre au loin un cri de singe, un cri de gorille.
Des cas.
Papa Lambert.
Oui.
Donc là, on a un gorille à 3 mètres de nous, quoi. Lui, c'est qui?
Si nous sommes maintenant en face de Monsieur Bonané. C'est le mâle dominant, c'est le chef alpha de cette famille de gorilles que nous sommes en train de visiter maintenant à l'intérieur de la forêt. Et tout autour de lui ici, il y a des femelles qui sont un peu dispersées juste pour chercher la nourriture. Mais normalement, nous, on va suivre les mâles et au fur et à mesure que les mâles bougent, ils peuvent nous amener là où se trouvent ces femelles.
Donc il est assez impressionnant. Hein. Il a un peu le dos gris quand même.
Oui, et normalement, c'est ça la force des mâles dominants. Quand il est encore black back, il a le dos noir là. Mais quand il commence à avoir les dos argentés, là, c'est-à-dire qu'il a maintenant la force de diriger toute une famille.
Là, il est assis, il se moque éperdument de notre présence. On n'a pas l'air de le déranger, là. Hein.
En fait, c'est une famille vraiment bien habituée. Comme je vous ai dit au départ, c'est les fils de Chimanuka. Et au fur qu'il a eu son temps de grandir, il était toujours en contact avec les visiteurs, avec les pisteurs, avec les guides, avec le monde. Et là, vous voyez comment il est très stable, très calme. Très bien habitué. Et cette liane qu'il est en train de manger, c'est ce qu'on appelle Urera. Il lèche dans les plaies, il se soigne facilement sans problème. Oui, c'est comme ça que nous les appelons des premiers docteurs en médecine traditionnelle. Nini?
Il pèse combien, à peu près, vous avez une idée?
Oui, c'est le mâle. Comme M. Bonané, là, déjà, à dos argenté, il peut aller de 200 à 250 kilos. Mais dans la nature comme ça, il peut vivre jusqu'à l'âge de 50 ans le maximum. 45-50 ans le maximum. C'est l'estimation, mais aussi il peut aller à plus de 50 ans.
C'est quoi les dangers, les principaux dangers pour les singes dans la nature?
L'unique prédateur pour les grands singes dans la nature, c'est l'homme seulement. Comme ici dans la partie de la haute altitude au parc national de Kahuzi-Biega, il n'y a pas de lions, il n'y a pas de léopards, il n'y a pas de panthères. L'unique prédateur ici chez nous, c'est l'homme. En fait, c'est ça notre rôle primordial de suivi des gorilles au Kahuzi-Biega, savoir tout ce qui peut affecter les gorilles, savoir des activités qu'il faut toute la journée, savoir même l'observation en cas de couplement, en cas d'agestation et consort. Mais quand il y a l'observation des cas pareils, le bébé gorille attrapé, il y a des collets métalliques attachés sur son corps, on fait rapport à qui de droit, au directeur chef de site. C'est à lui maintenant de donner l'ordre au docteur vétérinaire pour l'intervention sanitaire. Et là, on fait l'observation des bébés affectés, on estime les poids, on les fait dormir, il y a le système d'anesthésie là, et par après, on coupe les collets métalliques, et les gorilles, c'est ça, libre, on fait le suivi jusqu'à ce que les bébés, les gorilles réintègrent sa famille.
Ça arrive souvent?
Ça n'arrive pas souvent au parc national de Kahuzi-Biega. On peut passer des années et des années sans qu'on observe des cas pareils. Bien, voilà, on va vouloir arrêter avec les gorilles, on va les laisser tranquilles. Vraiment, je le répète encore, la famille Bonane, la famille Chimanuka, la famille Mpungwe, la famille Mugaruka, Mufanzala et Mufanzala des consorts, et les restes des familles de gorilles qui ne sont pas suivies. Voilà juste cette sous-espèce de gorilles rare et endémique au monde. Comment nous allons sauvegarder cette sous-espèce? Additionnons tous nos consciences professionnelles en fait de sauvegarder la faune et la flore, la biodiversité du parc national de Kahuzi-Biega. Combien vous me recevez? Tango Sierra de Tango Sierra 5. Direction nord-est, altitude 2359 mètres, over. Ok, out, over. Allez-la, allez-la, panacolo.
Ah, les gardes forestiers, les gardes du parc, ça s'entraîne dur là.
Vous avez déjà été ici une fois, non?
Non.
Ah, ça c'est maintenant l'emplacement où il y a la radio.
Dans ce, ah, Gorilla FM.
Oui, Gorilla FM. Et là, c'est mon bureau. Moi, je suis chargé de communication du parc national de Kahuzi-Biega.
D'accord. Et votre nom?
Moi, c'est Hubert Mlongoi. Je suis le porte-parole et chargé de communication du parc. Vous savez, on est dans une structure paramilitaire. Tout le monde n'est pas autorisé. Même un chargé de communication n'est pas autorisé de parler au nom du parc.
Et pourquoi c'est paramilitaire ici?
Vous savez, c'est une protection intégrale. Nous devons protéger la biodiversité. Vous savez, en Afrique, nous faisons face à plusieurs séries de braconnages, même des formes de braconnages. Alors, ceci, c'est un parc national qui est une protection intégrale et nous devons vraiment protéger par des armes et en fait d'autres techniques militaires.
D'ailleurs, on voit des militaires là. Bonjour messieurs les militaires. Ça va? Ils sont armés effectivement.
Hein. Ouais. Les armes ne sont pas là pour tuer les animaux. Les armes sont là pour défendre ces animaux, protéger les animaux contre les braconniers armés.
Ah, les braconniers sont armés aussi?
Oui, il arrive des fois qu'il y a des braconniers armés, puisqu'il y a des espèces tellement totalement rares et qu'ils veulent les avoir, ces espèces, à tout prix. Et ils doivent se défendre aussi. Et ils prennent des armes.
Monsieur le directeur, bonjour.
Bonjour, ça va?
Ça va et vous?
Non, ça va. Vous pouvez vous asseoir partout, vous voulez?
Merci.
Je m'appelle Didier Biaombe, je suis directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature au sud Kivu et directeur chef du parc national de Kahuzi-Biega. Le parc a été créé en 1970. C'était la réserve forestière qui a été transformée en parc. Et ça concernait seulement la haute altitude avec 6000 km². En 1975, on a fait l'extension jusqu'en basse altitude pour toucher les deux autres provinces, les provinces de Maniema et la province de Nord Kivu. Et cette extension a ramené la superficie du parc à 60 000 hectares. Et c'était uniquement pour la protection de ces gorilles et des éléphants avec la forêt des bambous. Dans ce pays, ce sont souvent beaucoup de milices et de groupes armés trouvent refuge dans les aires protégées. C'est là où se trouve un peu les forêts où ils se cachaient, mais aussi c'est là où il y a des moyens pour l'exploitation de minerais qu'ils utilisent pour se ravitailler, quelquefois les braconnages, et tous ces moyens qui les permettent de survivre ou de résister dans la forêt se retrouvent malheureusement dans les aires protégées qu'ils nous sommes obligés de protéger. Et dans ce cas, nous sommes obligés de les considérer aussi comme des braconniers et essayer de les dégager de là où ils sont. Donc c'est un braconnage qui change un peu de face, qui n'est plus vraiment contre les animaux avec les simples chasseurs, mais contre les groupes qui sont armés et qui ont d'autres objectifs. Puisque les groupes armés, que ce soit étrangers ou locaux, ne sont pas des groupes qui sont là seulement pour déstabiliser les aires protégées, mais ils sont là pour leurs objectifs. Le FDLR, c'est pour rentrer au Rwanda, peut-être faire la guerre. Le Mai Mai, c'est pour combattre tous ceux qui disent les mouvements de ces étrangers qui sont venus au Congo. Donc, il y a des objectifs qui sont très loin de la déstabilisation simple des aires protégées. À ces groupes armés, il y a ces braconniers aussi qui sont dans les trafics, par exemple, des ivoires. Et ça, c'est aussi pour chercher l'argent, dans les simples raisons de braconnage. Mais au Kahuzi Biega, ça fait 2 ans que je suis là. Sincèrement, je peux témoigner qu'il n'y a pas assez de braconnage si ce ne sont pas seulement ces groupes armés et quelques membres des communautés qui viennent faire un petit prélèvement. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de ces grands braconniers comme nous les voyons dans d'autres parcs. Par exemple, de Garamba, au Kahuzi Biega, je n'ai pas encore senti cette pression depuis que je suis là.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et aujourd'hui nous vous emmenons en République démocratique du Congo à la découverte du parc national de Kahuzi Biega à l'ouest du lac Kivu près de Bukavu. C'est là que vit l'une des dernières populations de gorilles des plaines de l'Est appelée aussi gorille de Grower, une espèce menacée par les activités humaines. Mais la création de ce parc dans les années 1970 a également eu pour effet de chasser les populations autochtones pygmées qui y vivaient. 50 ans plus tard, ils n'ont toujours pas de terre et les tensions ressurgissent régulièrement avec les éco-gardes du parc. Alors comment concilier la préservation d'une espèce menacée et la sauvegarde de la culture pygmée intimement liée à la forêt? Écoutons la suite du reportage d'Igor Strauss.
Alors là, quand on s'approche, c'est vrai qu'on a une vue sur
c'est le lac.
Enfin, les montagnes et le lac au loin.
Oui, c'est magnifique. On a une vue sur le lac, mais une vue lointaine. Mais d'ici là, on peut voir dans la vallée l'aéroport de Bukavu. Et le lac, après les montagnes là-bas, c'est le lac. Après, c'est la partie rwandaise.
Ouais, en tout cas, c'est un décor somptueux. Hein.
Bon, oui, c'est une merveille. Vous voyez d'abord son emplacement. C'est vrai, on est sur la route nationale numéro 3. Voilà, donc c'est vraiment un endroit très, très stratégique de la province aussi. Oui, au-delà d'être un endroit touristique, mais aussi c'est stratégique.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Moi, c'est Ricky Ombeni. Je suis journaliste. Je suis le rédacteur en chef de la nouvelle radio environnementale Gorilla FM. Ici à Bukavu. Ouais.
Alors, vous avez grandi dans la région.
Oui.
Votre père a toujours été un voisin des pygmées.
Oui.
Concrètement, comment ça se passait les relations entre les pygmées et les populations avoisinantes?
Dans l'ancien temps, donc il y a à peine 20 ans, les relations n'étaient pas au beau fixe. Parce que les communautés bantoues considéraient les pygmées comme un peuple non évolué, agressif. Parce que je me souviens que quand ils se déplaçaient pour des cérémonies coutumières à côté de la ville de Bukavu pour introniser un chef coutumier, c'était vraiment une débandade.
Donc ils quittaient leur milieu à côté du parc avec des lances, avec des machettes, et ils coupaient, ils ramassaient tout ce qu'ils trouvaient sur la route. Parce qu'ils étaient forts à l'époque. Si c'est les bananes, la poule, et c'est comme ça que la cohabitation n'était pas vraiment au beau fixe avec la communauté bantoue à l'époque. Mais aujourd'hui, on a senti peu à peu qu'ils ont perdu ce pouvoir. Donc ils ne sont plus des maîtres absolus. Parce qu'à l'époque, ils se considéraient comme les premiers habitants du Congo. Et c'est comme ça maintenant qu'ils se prenaient pour des gens vraiment des intouchables, et surtout qu'ils avaient la protection du pouvoir coutumier. Mais pour le moment, ils sont perturbés. Ils sont perturbés parce qu'ils n'ont pas leur propre terre. Ils sont confondus maintenant avec la communauté locale, les Bantous. D'ailleurs, pour trouver vraiment un vrai pygmée qui garde encore sa coutume, ça n'existe plus. Donc, c'est vraiment du bricolage.
Parce que la coutume, elle est liée à la forêt,
oui, à la forêt,
à l'habitat. Et là, ils sont cantonnés dans un village, c'est pour ça?
Oui, ils sont dans le village. Maintenant, ils sont maintenant confondus. Bon, c'est vrai qu'avant, ils ne cultivaient pas. Ils vivaient de la cueillette. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui commencent à cultiver, ceux qui commencent à aller même à l'école. Il y a des enfants pygmées qui étudient. Avant, ce n'était pas ça le cas. Et pour le moment, il y a les pygmées qui commencent à faire l'élevage. Et voilà, donc l'agriculture pygmée, même la langue pygmée, ils n'en parlent plus. Ce sont des langues vernaculaires. Donc, ils sont un peu engloutis par la communauté bantoue. Donc, l'agriculture pygmée, pour moi, ils ne sont plus ce qu'ils ont été il y a 20 ans, comme ça.
Et vous pensez que c'est une culture qui est en danger, justement?
C'est une culture en danger, parce que quand vous causez avec eux, quand ils étaient dans la forêt, ils partaient sur des grandes montagnes, pour des rites traditionnels. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le temps pour les faire. Parce que s'ils entrent dans les parcs, on les considère comme des braconniers, on les considère comme des gens qui veulent détruire les parcs. Voilà donc la culture petit à petit qui commence à disparaître. Alors que, quand j'ai causé avec l'autorité coutumière, il a dit qu'on peut tout faire, mais on doit sauvegarder l'identité de ces peuples pygmées. Parce qu'un chef coutumier, par exemple, dans la culture Bashi, ne peut jamais prendre les pouvoirs sans la communauté pygmée.
Donc ils ont un rôle essentiel finalement.
Ils ont un rôle à jouer parce que moi étant de la communauté Shi, les Mwami, notre chef coutumier comme étant les Shi, lui il dit toujours que la communauté pygmée, c'est sa valeur en tout cas, sa valeur ajoutée. Il propose même que, c'est vrai que le parc est devenu le site du patrimoine mondial, mais il propose qu'il y ait une gestion concerté, qu'on imite ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Là, on a appris qu'il y a des zones de chasse. Il y a des endroits qui sont totalement protégés, bien sûr, mais il y a aussi des endroits qui sont partiellement protégés. C'est juste pour permettre quand même aux peuples autochtones pygmées de faire leurs rites, peut-être une fois, deux fois l'an, de chercher leurs... Ils ont dit qu'ils ont des médicaments. Les médicaments sont des herbes qui sont dans la brousse. La viande boucanée, c'est vrai qu'on ne dit pas qu'il faut s'attaquer aux gros singes, mais il y a quand même des petits animaux qui peuvent manger et sans pour autant créer des problèmes. Ça peut être une solution pour qu'il y ait une cohabitation pacifique entre les peuples autochtones et les parcs.
Alors là, on va aller dans un village pygmée, justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce village?
Les villages des Muyang, comme les villages des Bulungule, ce sont des terres qui appartiennent aux Mwami. Ce sont des villages qui sont occupés à 100% par les peuples pygmées. Quand on les a chassés du parc, les Mwami, les rois dans les Bushi, c'est lui qui est le propriétaire terrien. Les Mwami a donné gratuitement pendant un temps. Donc c'est un peu, on peut y trouver vraiment des centaines de familles. Et la stratégie est qu'ils restent toujours à côté de leur habitat naturel. Donc, ils ne veulent pas aller très loin. Il fallait qu'on les laisse à la lisière du parc. C'est vrai qu'il y a des grandes concessions qui les séparent avec les parcs. Mais quand ils sont là-bas, ils s'acclimatent bien que d'être vraiment loin du parc.
Donc nous, c'est quel village qu'on va aller visiter?
On va visiter le village de Bouyungule, à 30 km de la ville de Bukavu. C'est au nord-ouest. et qui se trouve aussi à quelques mètres du parc national de Kahuzi-Biega et de la station de Tivanga.
Bon, ben allons-y. Oui.
Merci.
Merci.
Problème, il est né à Couleville, il touche à Chomo Kapal, tout côté il a libéré. Ça, c'est Ikona Chimba.
Il faut qu'on soulève derrière pour que l'attraction avant Itabulo la gagne. Donc,
là pour expliquer, il y a une toute petite piste.
Ouais.
Et en contrebas un champ et nous la voiture elle a glissé donc on est entre le champ et la piste.
Ouais.
Là il y a les petits enfants qui nous aident à mettre des pierres pour essayer de consolider le sol pour pas s'enliser mais ça va être compliqué.
Ouais, le chemin est pratiquement tracé dans un champ et le sol est trop meuble que s'enliser c'est aussi facile. Hier soir il a plu abondamment, on a vu des glissements des sols le long du chemin et voilà la conséquence c'est ça, mais tout à l'heure ça va aller. On a un bon véhicule, on espère qu'avec l'effort du chauffeur...
Et le chauffeur est très fort. Hein.
Et il est très fort. Oui.
Ah Jean, là, il faut lui tirer un coup de chapeau.
Ouais. Et là, c'est le dernier essai.
Ouais.
Je suis sûr qu'il
va se mettre dans le champ, parce que là, s'il arrive sur la piste, on est mal.
On est très nombreux. On peut nous-mêmes mettre ça ici.
Soulever la voiture, carrément ?
Si. Avec ce nombre ici, on est assez fort.
Ah bah là, il y a une bonne vingtaine de personnes. Du coup.
Et on va vraiment se lever jusqu'à ce qu'ils soient sur la route.
Voilà, il y a tous les villageois qui nous aident, mais... Bon, Bertin, on a réussi.
Ouais, c'est bon. Finalement, la force des muscles des jeunes qui étaient là et des vieux...
On a pu soulever collective.
Ah, vous avez vu, hein
ouais.
On a quand même pu soulever et la voiture a pu prendre de l'élan, quoi.
On repart ?
Ouais. Après 3 heures d'effort, la voiture repart enfin. Direction le village de Chombo pour rencontrer Ntavuna Sizungu, un chef pygmée.
Le sol qui était le leur, c'est-à-dire le terrain qu'ils avaient, c'est l'espace qui constitue aujourd'hui le parc national de Kahuzi-Biega. Ils pratiquaient leur culture dans cet espace-là pendant des longues années, jusqu'au moment de la création du parc. L'État est venu, il a pris leur espace et il leur a demandé d'évacuer, de sortir. Alors actuellement, ils se trouvent dans une difficulté. Partout où ils se retrouvent, c'est un peu comme des locataires. C'est-à-dire, si le Mwami, c'est-à-dire le chef de village, pensait qu'il peut reprendre le terrain comme le lieu où nous sommes maintenant, ils ne vont pas s'opposer, ils vont être obligés de se déplacer. Si l'État est intéressé au même lieu pour y faire des projets d'intérêt public, il va encore leur demander de se déplacer. Ils n'ont pas vu tout de suite la raison de sortir de la forêt, parce qu'ils sont... les meilleurs conservateurs de l'environnement, les meilleurs conservateurs de la forêt. Ils ne détruisent pas. Alors, pour conserver cette forêt, ils sont les meilleurs. C'est un peu comme quelqu'un qui a donné naissance à une belle fille. Tous les jeunes garçons tournent autour pour voir s'ils peuvent avoir sa main. Alors, si quelqu'un a de la richesse, c'est tout le monde qui est intéressé par ça. Eux sont fiers d'avoir vu qu'ils ont très bien conservé la forêt, qu'ils ont très bien conservé le parc, qui aujourd'hui a intéressé non seulement l'État, mais le monde entier. Et ils sont sûrs que partout où ils peuvent être dans un espace où il y a la forêt ou quoi, c'est le meilleur conservateur. Ils peuvent l'entretenir, ils peuvent le développer comme ils l'ont fait pour obtenir le parc que nous avons actuellement. Ce parc, c'est un milieu naturel pour eux, c'est eux qui l'ont ont du si beau et qui ont conservé les espèces à l'intérieur qui intéressent actuellement le monde entier. Ils sont capables de le faire encore si on leur donne un espace pour ça plutôt que de vivre chez autrui, c'est-à-dire à des endroits où on peut les déplacer pour des fins d'intérêt général. Ils ne sont pas contre ça. Si l'État veut mener une activité en des fins d'intérêt général, c'est OK. Mais qu'on leur donne un espace qui leur permet de conserver leurs traditions et leur culture.
Qu'est-ce qu'il symbolise, le gorille, dans la culture pygmée? Est-ce qu'il a une signification particulière?
Le gorille, le chimpanzé et tous les autres animaux du parc, c'est des animaux, ils font un avec. Ce n'est pas qu'ils sont étrangers, qu'ils les ont trouvés, ce n'est pas qu'ils constituent une menace pour ces animaux, ni les animaux pour eux. Donc ils ont depuis longtemps vécu ensemble. Tout ce qu'on peut connaître comme espèce aujourd'hui, gorilles, chimpanzés, serpents, c'est leur milieu naturel et naturellement, ils ont une histoire commune. Ils ne les voient pas comme étant une nature ou une espèce étrangère à leur culture, à leur tradition. Ils vivent ensemble. Et c'est important pour eux du fait que, en les conservant, parce qu'ils n'ont pas pour pratique de les exterminer. Alors, ils pensent et ils continuent à espérer que cela va, peut encore retourner. Tout ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'ils soient obligés, ils ne sont plus en contact, ils ne sont plus proches de ces animaux. Maintenant, ils sont proches des autres cultures. On leur apporte, on leur impose une culture différente, de sorte qu'ils sont éloignés de ces animaux qu'ils ont eu l'habitude et coutume de conserver, avec lesquels ils se sont habitués. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Chez eux, ce n'est pas que les gorilles. Il y a les gorilles, il y a les chimpanzés, il y a beaucoup d'animaux avec lesquels ils ont une histoire assez très proche. Et pour eux, ils sont tellement dérangés et gênés lorsqu'ils doivent s'en séparer. Ils ont une vie commune et ils souhaitent garder ça comme culture et pas qu'on leur impose une culture différente. Cela ne participe pas à la conservation de ces gorilles, à leur protection, et eux aussi, un élément de leur patrimoine culturel, leur est retranché de cette façon, en les mettant loin de ça.
Merci, Aksan Desana. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Moi, c'est Pascal Eraghi, et je suis... un peuple autochtone pygmé du territoire de Kabare, en province du Sud Kivu. J'ai 26 ans.
Quel rapport les pygmées entretiennent avec les gens du parc et les bantous généralement?
À l'heure où nous vous parlons, il n'y a pas un problème. C'est jadis où il y avait un problème, mais pour le moment, il y a vraiment un bon circuit. Et tout le monde est en train de chanter. Mais vraiment, les gens du PNKB, Parc National de Kaous-Biega, et les peuples autochtones pygmées commencent à manger sur une même assiette. Ils commencent à danser même à un même endroit. Parce que jadis, ils ne se faisaient pas. Le problème remonte depuis l'année passée, donc 2018. C'est là où le problème a commencé. C'était lié d'ailleurs... projet à mon niveau. Le projet, c'était le projet ProRoute qui était financé par la Banque mondiale. C'était prévu qu'on construise pour les pygmées des maisons, qu'on achète des terres pour les pygmées, mais aussi scolariser les pygmées. Et fort malheureusement, le projet a échoué. Du coup, les gens, surtout les pygmées de Calais, ce sont eux qui étaient les premiers à rentrer dans la forêt et dans le PNKB, Parc National de Kaous-Biega. C'était lié à quoi? C'était dû à ce projet-là qui avait échoué, je vous ai dit bien avant. Mais quand le projet a échoué, vous imaginez, c'est une déception totale. Et parce que on vous dit non, on vous achète de la terre, voilà, on va vous mettre dans de bonnes conditions, mais malheureusement, les conditions auxquelles on vous dit qu'on va vous mettre échoue, comprenez que ça donne vraiment une révolution, d'office une rébellion, parce que je vis les amis qui rentrent dans la forêt pour dire non, plus question d'éterniser dans des souffrances, il faut que nous rentrons chez nous.
Merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Le projet ProRoute était un partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais pour la réhabilitation et l'entretien des routes nationales de la RDC. Il comprenait aussi certains aspects sociaux, comme la lutte contre les violences faites aux femmes le long des axes routiers, avec le Fonds des Nations Unies pour la population, ou encore, en ce qui concerne le parc national de Kahuzi-Biega, l'achat de terres et la construction de maisons pour les populations pygmées. Mais selon les populations pygmées et le directeur du parc national de Kahuzi-Biega, De Dieu Baye Aombe, une ONG locale aurait détourné les fonds alloués à ce projet, provoquant la colère de certains pygmées qui, du coup, sont retournés dans le parc. Des heurts ont donc éclaté entre les pygmées et les éco-gardes, faisant des morts des deux côtés. Pour apaiser ces tensions, des membres du club RFI de Bukavu ont décidé de créer la radio Gorilla FM. Implantée au cœur du parc de Kahuzi-Biega, qui fournit donc les locaux et l'électricité, et avec l'appui du service des auditeurs de RFI, de la coopération suisse et d'Internews, une ONG internationale qui aide techniquement les médias, Gorilla FM est devenue une réalité.
Gorilla FM, la voix au cœur de la nature.
Monsieur Alain Bachizi.
Oui.
Je vous laisse vous présenter.
Alain Bachizi, initiateur de Gorilla FM et directeur de Gorilla FM.
Alors là, on est dans les locaux de cette toute nouvelle radio. Des locaux neufs, hein. Ici, alors un petit studio derrière, hyper bien assonorisé. Et puis là, deux consoles, des ordi, une vraie radio, quoi.
Ouais, une vraie radio. L'idée est venue, ça remonte, hein, d'il y a 3 ans. On était venu en visite ici pour visiter les gorilles. Et après, nous nous sommes entretenus avec le personnel du parc national de Kahuzi-Biega qui a présenté tout ce qu'ils avaient comme problème. Ils ont rencontré plusieurs difficultés par rapport à la cohabitation avec la communauté, la coupe des arbres, l'abattage des animaux, qui sont des espèces quand même rares, hein, qui sont conservées. Il fallait trouver un moyen de sensibilisation. Mais c'est vrai, il y a la population autochtone qui n'était pas très informée par rapport à l'importance de ce parc national de Kahuzi-Biega, sachant que c'est le poumon climatique de la province du Sud Kivu. Il a donc fallu trouver un moyen de sensibilisation. La radio étant un moyen de communication par excellence et à faible coût, il fallait songer à un projet de radio et c'est là que nous sommes aujourd'hui.
Alors ça a été un petit peu compliqué à mettre en place, j'imagine, parce qu'il faut du matériel, il faut former tout le monde, trouver des journalistes, monter une équipe, quoi.
Eh bien, c'est vrai, l'idée, elle était là, il fallait trouver du matériel, il fallait convaincre ici et là, il fallait voir les partenaires. Nous, nous sommes allés partout, dans la communauté, rencontrer les pygmées, rencontrer les populations autochtones pour les sensibiliser et leur demander si cette radio était vraiment importante et tout le monde était vraiment d'accord. Là, il fallait maintenant trouver des moyens, ce qui n'a pas été du tout facile. Mais c'est vrai, le studio, il est là, les équipements sont installés, le signal a été testé avec succès. Ben, la radio, elle est déjà prête, mais des programmations particulières avec des émissions, ben, c'est d'ici le mois de mars.
Alors, vous pensez mettre combien d'heures par jour ?
Dans un premier temps, nous avons songé entre 4 et 5 heures, ben, sachant que nous avons la perspective d'émettre 24 heures sur 24.
Bon, bah merci Alain Bachizi et longue vie à Gorilla FM. Et
c'est moi qui te remercie.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, est-ce qu'il est là ?
Monsieur Bertin est dans les parages ou pas ?
Oui, il est dehors.
Il est dehors. Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Je suis Bertin Nalokoma, membre du club RFI Bukavu et actuellement de Gorilla FM.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire très concrètement en termes de contenu ?
Il s'agit d'abord de connaître davantage la communauté des pygmées ou toutes les communautés qui environnent le parc. Elles sont quand même assez nombreuses, mais ont la même caractéristique de pygmées, leur culture, leur mode de vie. Pour comprendre quel est le lien qu'ils ont particulièrement avec la nature qui est ce parc, parce que on ne sait pas parler des pygmées sans un environnement comme celui du parc, en dehors de la nature. Ce que nous souhaitons avoir comme approche, c'est vraiment une imbrication, non seulement de notre culture, mais de notre façon de voir. Parce que les meilleurs conservateurs chez nous, de la nature, ce sont les pygmées. Ils connaissent la nature, ils maîtrisent, alors il faut que nous entrions dans leur vie, nous entrions dans leur culture, pour savoir comment faire pour conserver ensemble. Ils ont des techniques que peut-être nous ne connaissons pas encore, que sûrement que nous ne connaissons pas encore et nous aimerons apprendre d'eux.
Les pygmées ont longtemps été victimes de stigmatisation aussi, en mettant au grand jour leur mode de vie, leur connaissance. C'est aussi une façon de les faire connaître et de lutter contre la stigmatisation envers eux.
Exactement. La stigmatisation a souvent été due au fait qu'ils ne sont pas très physiques dans nos communautés, en dehors de la forêt, en dehors de la nature. Alors tout le monde s'est fait une impression sur eux, sur leur vie. Ils sont très heureux aujourd'hui de constater qu'il y a un moyen de communication, un outil qui va permettre de les connaître davantage. Déjà, la simple éducation, c'est-à-dire leurs enfants qui vont à l'école ne suffit pas. Mais si on a un moyen qui permet de les connaître véritablement, ils ont l'expression, c'est eux qui parlent d'eux-mêmes. Cela pourrait dissiper tout ce qu'on a comme confusion, comme mauvaise information autour de leur culture. Leur condition actuelle pourrait être connue du monde, leurs vœux, leurs aspirations, leur façon de vivre, ce qu'ils réclament aujourd'hui. Je suppose que vous avez entendu qu'en essayant de les mettre en dehors de leur milieu naturel, cela crée des frustrations chez eux. Alors ils ont fait des revendications auprès de l'État, ils ont fait des revendications auprès de services étatiques qui sont affectés, orientés vers la conservation. Maintenant, avec cet outil, ils espèrent que le monde saura qu'il y a quand même un peuple qui a une histoire avec la nature. Et avec ça, ils s'approprient le projet, ils sont prêts à l'accompagner du moment qu'ils en font partie.
Vous émettrez en quelle langue du coup ?
Il y a plusieurs langues locales, mais il y en a qui permettent une communication sur un plus grand nombre. Alors nous émettrons en français certaines émissions, en swahili, c'est une langue qui rassemble beaucoup plus de communautés. Il y a le lega, il y a le machi, c'est la langue chi, il y a les kibembe autour du parc. Il y a une douzaine de communautés qu'avec déjà les quatre premières langues, on peut espérer en rassembler davantage. Pas seulement au-delà des zones environnantes du parc, mais d'abord au sein du parc, l'environnement du parc, et après dans le monde.
Gorilla FM est inauguré aujourd'hui, vendredi 20 mars, dans le parc national de Kahuzi-Biega. Nous lui souhaitons évidemment beaucoup de succès, car ses créateurs le méritent. Merci à Igor Strauss et au service des relations avec les auditeurs de RFI pour ce reportage, au club RFI de Bukavu pour cette formidable initiative et à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres, surtout en ce moment. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.